Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Merci à nos fidèles auditeurs d'être encore à l'écoute de Métropolez-vous et bienvenue aux nouveaux venus qui découvrent cette émission. Le rapport 2019 de la Fondation Abbé Pierre sur l'état du mal-logement en France est récemment paru. Il présente une vision chiffrée, détaillée et circonstanciée de la situation des mal-logés dans notre pays. Un problème qui ne s'arrange pas vraiment et dont l'évolution ces dernières années continue d'inquiéter, ses conséquences étant nombreuses pour les personnes concernées et pour notre société dans son ensemble. Sans faire de mauvais jeu de mots, on peut se demander comment est lotie la métropole toulousaine dans le domaine du mal-logement. Y a-t-il des problématiques propres à notre territoire? Quelles sont les solutions envisagées? Quels dispositifs existent et sont mis en place pour répondre à ce phénomène? Qui sont les acteurs de terrain, ceux qui viennent en aide aux mal-logés? Et que font les institutions publiques et les collectivités territoriales dans ce secteur? C'est à toutes ces questions que nous allons essayer de répondre au cours de ce numéro consacré à la situation du mal-logement dans la métropole toulousaine. Et c'est justement un des acteurs de terrain qui œuvrent et viennent en aide aux mal-logés dans la métropole toulousaine que nous recevons aujourd'hui à Métropolez-vous. Il s'appelle Thomas Coudrette et il est membre du C10-31, le collectif d'entraide et d'innovation sociale de Haute-Garonne. Bienvenue à vous monsieur et merci d'avoir accepté notre invitation à participer à cette émission. Alors comme je pense que tout le monde ne connaît pas le C10-31 parmi nos auditeurs, je vais vous demander d'abord de le présenter. Quel est le statut de ce collectif, parce que c'est un collectif, et quelles sont ses missions et ses activités, notamment bien sûr dans la métropole toulousaine?
Bonjour, donc le CEDIS c'est un collectif qui existe à Toulouse depuis 2014 et qui n'a pas vocation à être structuré en association puisqu'il n'a pas vocation à être financé. Le collectif rassemble des personnes qui s'engagent bénévolement pour défendre des valeurs humanistes et fraternelles et aussi agir au quotidien concrètement pour aider les personnes et chercher des solutions adaptées et pérennes.
Quel profil en général les personnes qui s'engagent dans le CEDIS? Peut-être que vous recherchez des profils particuliers pour les besoins qui sont les vôtres à l'intérieur du collectif.
Oui, alors il y a une petite moitié de professionnels du social, de la santé ou du médico-social qui viennent donc bénévolement et à titre personnel. Et il y a une majorité de personnes qui en fait viennent de tous horizons et qui notamment amènent leurs compétences, leur vision, leur énergie pour aider les personnes en situation d'exclusion. Donc du coup c'est un peu tout le monde finalement qui peut participer aux activités du collectif et faire avancer les choses.
Alors je suppose que vous travaillez avec d'autres structures. Quels sont vos partenaires, vos soutiens dans les missions que vous avez?
Alors on travaille avec beaucoup d'associations du secteur de solidarité, notamment on va citer par exemple l'association Emmaüs, mais beaucoup d'associations aussi qui font de l'hébergement. Puisque pour nous c'est important au quotidien de comprendre où sont les complexités pour aider à trouver des solutions. Donc on travaille avec l'essentiel du secteur associatif toulousain sur les questions de l'hébergement, de l'accès à la santé, de l'accès à la scolarisation, à l'emploi ou encore à la culture.
Puis alors, information très pratique pour ceux qui ça ne manquera pas d'intéresser parmi nos auditeurs, où sont situés vos locaux?
Alors aujourd'hui, le collectif est présent dans un pavillon qui s'appelle le pavillon Rieser à l'hôpital Purpan. Mais le plus simple pour entrer en contact avec nous, c'est de passer par le site internet du collectif, donc le cedis31.org.
Voilà, bien merci pour cette présentation très complète du cedis31. Je pense que nos auditeurs m'ont bien compris ce qu'était son organisation et ses activités. Dans quelques minutes, nous détaillerons avec vous la situation du mal-logement dans la métropole toulousaine. Avant cela, nous avons rendez-vous avec Corinne Saint-Félix et son habituel flash d'information hebdomadaire. Métropolez-vous, l'actu. Et ce flash commence avec la visite d'un ministre à Toulouse et avec l'annonce de l'investissement de plus d'1 milliard d'euros en faveur des quartiers prioritaires dans la métropole toulousaine.
Oui, le ministre chargé de la ville et du logement, Julien de Normandie, était à Toulouse lundi pour la signature des conventions sur le renouvellement urbain et l'amélioration du parc privé dans la métropole toulousaine. Étaient présents Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse et président de Toulouse Métropole, Gérard Klein, président de l'Agence nationale de rénovation urbaine, Karine Traval-Michelet, vice-présidente de Toulouse Métropole en charge de l'habitat et maire de Colomiers, et de Franck Biasotto, président de la commission métropolitaine Habitat. Ce programme d'ampleur vise 4 quartiers prioritaires, le Grand Mirail, Empalo, Val d'Aran et les Isards, soit 47 000 habitants. Deux déclarations d'engagement financier avec l'Agence nationale de renouvellement urbain, l'Agence nationale de l'habitat et les élus locaux ont été signées. La métropole toulousaine mettra en œuvre plus d'un milliard d'euros d'investissement pour la transformation de ces quartiers, dont 300 millions d'euros engagés par Toulouse Métropole et la mairie de Toulouse. Ce plan couvre la période 2018-2025.
Une autre information maintenant qui concerne notre sujet du jour, il y aurait 5000 personnes qui vivraient dans la rue à Toulouse.
C'est en tout cas ce que révèle le site Médiacité. La mairie de Toulouse aurait réalisé en mars dernier un recensement des personnes sans domicile fixe, dites sans résidence stable, à savoir toutes les personnes à la rue ponctuellement ou en permanence, celles qui vivent dans des squats et toutes celles accueillies dans des hébergements d'urgence. Ces personnes seraient entre 4800 et 5400, un décompte qui a été effectué avec l'aide d'associations comme la Croix-Rouge, le DAL, Médecins du Monde ou encore les Restos du Cœur.
Et puis un événement qui vient d'avoir lieu tout récemment, durant 3 jours, associations, entreprises et habitants se sont succédés au forum Toulouse Plus Verte.
Oui, autour d'une vingtaine de stands et d'une agora bien fournie, les débats et les présentations ont permis à plus de 7000 Toulousains de découvrir ou redécouvrir la richesse de leur patrimoine naturel et d'exprimer leurs propositions. Les contributions du forum seront analysées dans les prochaines semaines et donneront lieu à plusieurs groupes de travail thématiques qui rassembleront entreprises, associations, citoyens et professionnels de l'acte de construire. Les commissions de quartier seront également mises à contribution pour identifier les besoins de végétalisation quartier par quartier. La mairie de Toulouse se donne l'objectif de planter 100 000 arbres sur son territoire afin d'œuvrer pour la qualité de l'air, la réduction des îlots de chaleur et la biodiversité.
Nous avons eu souvent l'occasion d'en parler dans cette émission. Toulouse est aussi la métropole de l'innovation. Et elle a été retenue par le gouvernement comme l'une des 13 capitales French Tech.
Oui, avec le label Capital French Tech, le dynamisme de l'écosystème des startups toulousaines est reconnu et récompensé. Il permettra au territoire de bénéficier de nouveaux dispositifs à l'attention des entrepreneurs. L'ambition est de permettre aux quelques 220 startups locales de trouver un cadre favorable à leur développement, un secteur fortement porté notamment par le numérique et la robotique. Ce label ouvre la porte à de nouvelles actions qui s'inscriront dans la continuité de celles déjà portées par le passé par Toulouse Métropole au titre du collectif, comme l'accompagnement de 17 jeunes pousses sur des salons internationaux ou le programme innovant d'échange de start-up avec la ville jumelle Atlanta, dont ont déjà bénéficié 16 entreprises du territoire.
Voilà donc le flash d'information hebdomadaire de Corinne Saint-Félix et Thomas Coudrette. Je pense que vous aurez des précisions ou des compléments à apporter à la deuxième information de ce flash. 5000 personnes donc qui vivraient dans la rue à Toulouse, est-ce que vous confirmez ce chiffre ?
Oui, bien sûr, 5000 personnes, alors c'est pas des personnes qui vivent forcément à la rue. L'étude porte plus largement sur les personnes qui vivent à la rue, mais aussi dans des habitats extrêmement précaires, comme les squats, les bidonvilles, ou encore qui sont accueillis dans des hôtels financés par l'État, ou de l'hébergement d'urgence. Donc c'est plutôt 5000 personnes concernées par la vie à la rue. Et il faudrait quand même rajouter à celle-là, celle qui, au 15 février, le jour de l'étude, était déjà dans une situation d'être expulsable à partir du mois d'avril. Voilà, en tout cas, c'est très important, effectivement, de mener ce type d'étude. Ça permet, en comptant les personnes, finalement, les personnes comptent ensuite et existent, alors que sinon, on a toujours affaire à l'État et à la préfecture qui ont tendance à vouloir oublier des personnes parce que ça les arrange vu qu'ils sont censés les héberger. Et donc, c'est important pour les associations et aussi pour la ville de Toulouse d'avoir une vision réelle de ces personnes-là.
Donc, 5000 à Toulouse, est-ce qu'on a une idée de leur nombre dans la métropole toulousaine? C'est sans doute un peu plus compliqué parce qu'il n'y a pas de recensement commune par commune.
Non, voilà, tout à fait. C'est-à-dire que c'est d'ailleurs une question à se poser. Peut-être que l'année prochaine, ça serait bien qu'il y ait d'autres communes de la métropole qui participent. Cette année, seule la mairie de Toulouse a participé. Ça serait bien notamment parce que nous, aujourd'hui, on voit bien qu'on est sollicité par rapport à des personnes qui vivent sur d'autres communes. Je citerai comme ça notamment Balma, Colomiers, Blagnac. Je pense que ça serait un objectif important et intéressant de se dire que dans les années qui viennent, effectivement, cette opération de recensement des personnes concernées par la vie à la rue puisse être faite sur l'ensemble du territoire métropolitain.
Merci pour ces compléments d'information. Ça nous permet de prolonger maintenant le sujet de cette émission consacrée, je le rappelle, à la situation du mal-logement dans la métropole toulousaine.
Métropole et vous.
Métropole et vous, le focus de la semaine.
Métropole et vous.
La suite de Métropolez-vous avec notre invité Thomas Coudrette, membre du C10-31, le collectif d'entraide et d'innovation sociale de Haute-Garonne. En préalable à notre discussion, ça va peut-être paraître évident à certains de nos auditeurs, il me semble important qu'on définisse la notion de mal-logement. Est-ce qu'il existe une définition précise et quels sont les critères qui caractérisent le mal-logement ?
Alors, je vais prendre la définition de la Fondation Abbé Pierre, qui est quand même la référence sur le sujet du mal-logement. Pour la Fondation Abbé Pierre, le mal-logement se traduit à travers 5 manifestations essentielles. L'absence de domicile personnel, les mauvaises conditions d'habitat, les difficultés pour accéder à un logement, les difficultés pour s'y maintenir et les blocages de la mobilité résidentielle. Nous pouvons ajouter sur ce dernier point de la mobilité résidentielle qu'on voit souvent des gens qui se retrouvent à vivre dans un logement trop grand et trop cher et qui en sollicite un plus petit sans pour autant y avoir accès. On voit des gens qui vivent dans des logements surpeuplés, donc dans des logements trop petits pour le coup. On voit des logements aussi mal isolés et donc avec des problématiques énergétiques qui font que les gens n'arrivent plus à payer leurs factures d'énergie.
Voilà, c'est-à-dire que c'est important ce que vous avez dit, là, quelqu'un qui vivrait dans un appartement entre guillemets trop grand, ça peut être aussi un mal logé parce qu'il y a des conséquences derrière pour le chauffage, évidemment ça coûte plus cher, il y a tout ça aussi derrière.
Oui,
et en entretien aussi sans doute.
Et par exemple là, en fin de trêve hivernale, au mois d'avril, on voit à Toulouse des personnes expulsées de leur logement parce qu'elles n'arrivaient pas à payer un loyer, alors que ces personnes ont demandé depuis des années l'accès à un logement social plus petit, justement parce qu'elles s'en sortaient pas. Donc ces personnes qui n'accèdent pas à une mobilité suffisante, finalement se retrouvent expulsées de leur logement, alors que ça fait des années qu'elles tirent la sonnette d'alarme.
Une autre question que je me posais, le non-logement, les SDF, les sans-abri, appelons ça comme on veut, est-ce que ça fait partie du mal-logement ou est-ce que ce sont deux notions qui sont vraiment complètement séparées ?
Ben, le sans-abrisme, c'est la forme sûrement la plus terrible et la plus criante du mal-logement. Elle concerne à la fois les personnes qui se retrouvent vraiment sans-abri ou des personnes qui sont hébergées, par exemple, chez des amis ou dans la famille. Et c'est là où il y a aussi énormément d'inégalités face à ces questions-là, puisqu'évidemment, entre ceux qui ont un soutien familial et ceux qui ne l'ont pas, ça change tout. Et tout ça n'a rien à voir avec du mérite. C'est malheureusement une terrible injustice dans notre pays.
Donc on parlait tout à l'heure des 5000 personnes qui vivaient dans la rue à Toulouse. Maintenant, j'en reviens vraiment à ceux qui sont mal logés. Considérés comme mal logés, ce serait combien de personnes en France et combien de personnes à Toulouse ou dans la métropole toulousaine, si on a les chiffres ?
Alors, pour citer le dernier rapport de la Fondation Abbé Pierre, on considère qu'il y a à peu près de 15 millions de personnes qui sont touchées par le mal logement. 15 millions.
C'est-à-dire c'est presque une personne sur quatre.
Quoi. Voilà, c'est ça.
C'est énorme, quoi.
Oui, c'est énorme et ça montre qu'il y a des problèmes de fond sur la question du logement. Après, il faut voir que autant sur la question du logement et du mal-logement, c'est un problème de fond qui concerne notamment la production de logements sociaux adaptés aux revenus et aux besoins des personnes. Mais il y a un sujet effectivement qui est différent sur le sans-abrisme. Et sur le sans-abrisme, on a encore moins d'excuses aujourd'hui puisqu'il y a des solutions concrètes qu'on pourrait mettre en œuvre très rapidement, puisque ça concerne beaucoup moins de personnes et qu'on a beaucoup de logements vacants.
Dans les mal logés, il y a des sous-catégories, si on peut dire. Il y a plusieurs degrés de mal logement et plusieurs causes au mal logement. Est-ce qu'on a là aussi des chiffres ou des pourcentages dans ce domaine ?
Alors, pas forcément des chiffres précis. En tout cas, je ne serais pas capable aujourd'hui de vous les fournir. Je pense qu'on manque souvent de visibilité. En tout cas, il y a beaucoup de logements, effectivement, suroccupés, de personnes qui vivent dans des logements mais qui n'arrivent plus à payer leur loyer ou leur facture d'énergie. Il y a aussi des copropriétés qui sont en difficulté. Dans certains quartiers, c'est vraiment manifeste. Et puis, il y a donc encore une fois tout ce qui est précarité énergétique ou aussi les enjeux liés à la santé. Il faut voir que beaucoup de personnes aujourd'hui ne sont pas correctement accompagnées sur les enjeux sanitaires et que ça soit des problématiques de santé mentale ou d'addiction. C'est aussi des personnes qui du coup se retrouvent très mal logées ou à la rue parce qu'on n'a pas su gérer les problématiques de santé en amont.
Ah oui, ça m'amène aux conséquences du mal logement parce qu'elles sont nombreuses. Il n'y a pas seulement le fait d'être mal logé. Et il y a des conséquences d'insertion sociale et professionnelle inévitablement. Et puis il y a des conséquences sur la santé mentale, la santé physique.
Oui, on voit véritablement les gens s'enfoncer dans la précarité. On voit des personnes qui, du coup, développent tout un tas de problèmes de santé. Alors, il y a des fois des gens qui perdent leur boulot et qui perdent leur logement, mais aussi on voit l'inverse. On voit des gens qui ont un boulot et le perdent parce qu'à un moment, ils ont plus de logement. Cet hiver encore, il y avait une centaine de personnes accueillies dans un gymnase à Toulouse. J'ai vu des personnes perdre leur emploi parce qu'au bout d'une semaine ou 10 jours de vie dans un gymnase, ils étaient épuisés. Comment peut-on vivre avec une centaine de personnes dans un gymnase la nuit et aller travailler la journée ? Donc du coup, ça, c'est malheureusement les exclusions s'alimentent entre elles. Et l'exclusion du logement amène l'exclusion de la santé, amène l'exclusion aussi de l'emploi.
Alors, il y a aussi une autre conséquence à laquelle je pense, c'est que c'est une conséquence sur la sécurité des personnes concernées.
Oui, et alors là, je pense particulièrement aux femmes, notamment, qui sont en première ligne. On voit des choses absolument terribles qu'on ne voyait pas il y a quelques années. Depuis 2016, il y a une décision du conseil départemental. Les prises en charge des publics les plus vulnérables ne se font plus du tout correctement. Et donc, on se retrouve aujourd'hui avec des femmes seules à la rue. Il faut savoir qu'une femme seule à la rue, au bout de 2 ou 3 semaines en moyenne, elle va subir des violences sexuelles. C'est des situations qui sont terribles. Dimanche encore, j'étais dans un cadre interassociatif où on a eu beaucoup de témoignages. Et quand vous entendez des femmes expliquer les violences qu'elles ont subies dans leur famille, puis avec leur conjoint violent, puis une fois qu'elles se sont retrouvées sur des hébergements, puis à la rue. Et une fois à la rue, une des protections, par exemple, c'est l'odeur. C'est d'essayer de renier toute forme de féminité. Enfin, on tombe sur des choses absolument affreuses. Et il faut voir que non seulement on a des problèmes aujourd'hui avec la prise en charge des femmes victimes de violences, mais c'est aussi le cas maintenant avec les mineurs, avec les jeunes majeurs, avec les femmes enceintes. Aujourd'hui, on voit des femmes enceintes de plus de 8 mois qui vivent à la rue. C'est quelque chose qu'on n'aurait jamais vu avant. Et c'est quelque chose qui est totalement inacceptable dans le 6e pays le plus riche au monde.
Sans parler de chiffres précis, là, l'évolution ces dernières années, la tendance du mal logement en France, ça va vraiment en s'accentuant.
Ben ça va justement en s'accentuant et non seulement il y a une augmentation effectivement des personnes concernées parce que le système génère cette précarité, mais en plus il y a une diversité effectivement des publics. J'en citais quelques-uns à l'instant. Voilà, aujourd'hui plus personne n'est à l'abri d'une vie à la rue. Il faut voir que ça peut arriver à tout le monde, parce que même pour ceux qui d'ailleurs ont un soutien familial important, il y a toujours le risque de la santé mentale. Vous voyez, moi on voit des gens à la rue qui pourtant, au départ, avaient une bonne situation, éventuellement pouvaient être chef d'entreprise ou être CSP+, mais personne n'est à l'abri des maladies mentales. Et aujourd'hui, en France, bah, quand on a un problème de santé mentale, on peut très très vite dégringoler et se retrouver à vivre dans les pires conditions.
Est-ce que la tendance observée au niveau national, c'est la même dans la métropole toulousaine? On est dans la norme, si on peut dire, national.
Oui, je crains qu'effectivement on soit dans une forme de norme, en tout cas pour donc ce qui est de territoire de type métropole. On revient d'une situation où on était extrêmement mal équipé en hébergement. Il faut voir que d'une ville à l'autre, il y a des inégalités. Et Toulouse, depuis longtemps, comme Montpellier d'ailleurs, sont vraiment dans les territoires les plus mal dotés en hébergement d'urgence. Tant et si bien que même si l'hébergement d'urgence a été multiplié par 2 en 5 ans, on reste un département très mal doté en hébergement.
Alors, on va parler maintenant des solutions, des dispositifs qui existent face à cette situation. Par exemple, combien y a-t-il de logements vacants dans la métropole?
Ben c'est quelque chose d'assez choquant. On parlait tout à l'heure des 5000 personnes concernées par la vie à la rue sur la métropole toulousaine. D'après l'INSEE, il y a un peu moins de 30 000 logements vacants.
30 000 logements. C'est-à-dire qu'il y aurait 6 logements vacants pour une personne à la rue.
C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que, du coup, il y a sûrement des logements qui nécessitent des travaux importants, etc., etc. Mais il y a globalement largement assez de logements pour mettre tout le monde à l'abri. Et c'est vraiment ça qui rend les choses encore plus insupportables, c'est qu'on ne manque pas de logements. Les gens sont dehors, on ne manque pas de logements. Alors évidemment, il y a d'autres questions que la question du logement. Il y a la question des services qui sont proposés aux propriétaires. Ce serait bien qu'on y revienne. Et puis il y a aussi la question, bien sûr, de l'accompagnement social et sanitaire.
Alors ces logements vacants, ils appartiennent essentiellement à des particuliers, à des privés, ou est-ce qu'il y en a aussi une bonne partie qui appartient à des institutions, à des collectivités?
Non, on trouve encore quelques logements publics vides à Toulouse, mais beaucoup moins. Il faut savoir que la mairie de Toulouse a lancé un dispositif de résorption des bidonvilles basé sur l'accès à l'emploi et les logements vacants lui appartenant. Ça fait 3 ans que ça a été mis en œuvre. C'est plus de 1100 personnes qui ont déjà été accueillies sur ce dispositif, dont une bonne moitié sont parties sur du logement social après avoir trouvé un emploi. Donc c'est vraiment un dispositif exceptionnel au regard de ce qui se fait dans d'autres villes, qu'on aimerait bien voir dans toutes les villes françaises, et aujourd'hui on y travaille justement pour que d'autres passent le pas. Donc sur la mairie de Toulouse en elle-même, elle a mobilisé beaucoup de bâtiments. Il reste la métropole, mais qui enfin commence à mobiliser ses bâtiments. Il y a une étude qui est menée en ce moment entre des associations et la métropole, donc ça bouge. Mais il reste encore tout un tas de logements qui appartiennent notamment à des communes de la métropole et qui n'ont pas encore trouvé la bonne formule pour les mobiliser. Après, effectivement, sur les 29 000 logements, l'immense majorité, c'est des petits propriétaires privés qui possèdent ces logements vacants.
Vous évoquiez tout à l'heure l'hébergement d'urgence à Toulouse. Est-ce qu'il y en aurait assez par rapport à la situation à laquelle nous sommes confrontés, notamment l'hiver, bien sûr?
On verra effectivement les conclusions, notamment de l'étude qui a été menée sur le territoire toulousain récemment. Probablement que s'il y avait suffisamment de logements mobilisés par ailleurs, notamment dans le cadre du plan Le Logement d'abord, on aurait suffisamment de places d'hébergement. En tout cas, c'est dur à dire, tant justement pour le moment les débouchés manquent. Parce qu'effectivement, il y a aussi des gens qui restent dans des centres d'hébergement d'urgence, tout simplement parce qu'il n'y a pas de logement disponible. Donc c'est tout le système, en fait, qui est engorgé.
Alors quels sont les points bloquants, j'y reviens, pour l'accès des mal logés à un logement ou à un hébergement décent dans la métropole toulousaine, en France en général, mais là dans la métropole, sachant tous ces logements vacants qui existent?
Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de petits propriétaires, donc des particuliers, qui ont des logements vacants, qui ne savent pas trop quoi en faire, qui en fait du coup ferait bien quelque chose quand ils voient tous ces gens à la rue, mais qui savent pas comment faire. Le pourquoi, je veux espérer que tout le monde sera d'accord sur le fait qu'il faudrait trouver des solutions aux gens à la rue. Mais sur le comment, en revanche, effectivement, l'important, c'est que les petits propriétaires sachent qu'ils peuvent contacter les professionnels qui, eux, maîtrisent ces enjeux-là. Concrètement, si vous cherchez sur internet Solibail, S-O-L-I-B-A-I-L, c'est un dispositif mis en place par notamment le ministère de la cohésion des territoires. Tout est expliqué sur internet et ça permet de rentrer en contact avec des associations qui maîtrisent les enjeux d'accompagnement social ou d'accompagnement sanitaire et qui vont permettre aux propriétaires privés d'accueillir en toute sécurité et de façon simple les personnes les plus exclues. Parce que ces associations vont prendre en charge l'accueil des personnes, le paiement des loyers, les travaux initiaux à faire. Par exemple, il y a des propriétaires aussi qui gardent des logements vides parce qu'ils ne savent pas trop par quel bout prendre le problème des travaux. Et puis s'il y a le moindre problème, les associations sont là, notamment pour s'assurer que l'appartement sera libéré en temps et en heure, que les loyers seront toujours payés et que si c'est nécessaire, l'appartement sera remis en état. Donc aujourd'hui, finalement, on se retrouve avec beaucoup de gens qui restent à la rue, tout simplement parce qu'il y a un problème culturel, un problème d'accès à l'information. Oui, il existe des solutions qui permettraient que plus personne ne vive à la rue.
En fait, il faudrait que les propriétaires privés donc de logements vacants soient bien au courant des aides auxquelles et des soutiens auxquels ils ont droit, et puis qu'ils se sentent sécurisés dans cette démarche. C'est peut-être ça le point le plus bloquant pour eux.
Oui, c'est le point le plus bloquant, mais encore une fois, parce que souvent, les possibilités existantes leur ont pas été correctement communiquées. Et c'est aussi un enjeu, aujourd'hui, dans une émission comme la vôtre, c'est justement de pouvoir insister là-dessus. Il y a des solutions adaptées, et il faut pas hésiter à rentrer en contact avec des acteurs associatifs qui, encore une fois, maîtrisent ces enjeux-là et accompagneront les propriétaires dans la mobilisation de ces logements pour qu'enfin on ne voit plus 5 000 personnes concernées par la vie à la rue et près de 30 000 logements vides sur la métropole.
Alors, il y a peut-être un sujet qu'il faut aborder à ce moment de notre discussion, c'est l'encadrement des loyers. Jean-Luc Moudin, justement, a annoncé ce lundi, là, c'est tout récent, la création d'un groupe de travail sur l'encadrement des loyers dans la ville et dans la métropole. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'une telle mesure, d'un tel groupe de travail et de réflexion?
On peut effectivement, là pour le coup, s'attaquer au problème du mal logement en général. C'est une mesure qui, notamment, est soutenue par la Fondation Abbé Pierre ou le DAL. Donc même si c'est pas, je dirais, la spécialité du CEDIS, en tout cas, je pense que ce serait sûrement une bonne mesure. Mais à minima, il faut l'étudier. Et c'est ce qui est réjouissant, c'est que ce groupe de travail va effectivement permettre au moins de mettre tout le monde autour de la table pour étudier ces possibilités, puisqu'on sait qu'effectivement, les loyers s'envolent un peu partout dans les métropoles françaises, mais d'autant plus dans une ville aussi attractive que Toulouse.
Alors oui, justement, parce que ça pourrait paraître paradoxal, la métropole toulousaine, territoire très attractif, plutôt dynamique sur le plan économique, sur le plan de l'emploi, avec population assez jeune, mais il se trouve qu'il y a de très fortes problématiques sociales. Voilà, est-ce que c'est un paradoxe? Quelles sont les causes de cette situation?
C'est un paradoxe oui et non, c'est-à-dire que la bonne santé économique, l'attractivité économique, attire ceux qui, justement, ont besoin de trouver un emploi. Donc, le problème, c'est finalement qu'il faut aider aussi les gens à faire le lien entre leur parcours de vie et les possibilités qu'il peut y avoir sur l'ensemble des territoires. Il y a un vrai problème de coordination aujourd'hui entre les territoires métropolitains, périurbains, les zones rurales, les villes moyennes. Aujourd'hui, nous, on voit plein de gens qui sont en grande difficulté à Toulouse, parfois à la rue, et qui seraient prêtes à aller assez loin pour avoir un logement, un emploi, les enfants scolarisés, simplement ils savent pas où aller. Et ça, c'est vrai que le millefeuille administratif français pose tout un tas de problèmes, avec non seulement des acteurs qui se renvoient la balle, mais aussi un manque de coordination. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de proposer quelque chose de concret, alors que nous, on voit bien que dans certains territoires, il y a non seulement des logements vides, mais des postes aussi qui ne trouvent pas preneur, donc de l'emploi, et même des classes, par exemple, d'écoles à sauver. Et aujourd'hui, cette connexion-là a beaucoup, beaucoup de mal à se faire, et au niveau interministériel, c'est encore peu satisfaisant.
Donc les mesures du genre, ce serait quoi? Ce serait de simplifier les choses, de mettre de l'huile dans les rouages, de mieux se coordonner, de mieux communiquer?
Oui, c'est mieux impliquer l'ensemble des acteurs concernés, d'arrêter de se renvoyer la balle, que tout le monde réalise aussi que ces situations qui sont humainement dramatiques concernent tout le monde. Ça ne s'arrête pas à l'État, même si c'est l'État qui est responsable de l'hébergement et du logement. Tout le monde doit se sentir concerné, que ça soit une personne ou que ça soit une organisation. Et donc effectivement, il y a la mobilisation des acteurs. Et puis d'une manière générale, on voit dans le domaine social, comme dans le domaine de l'environnement, un problème de vision durable, de développement durable. C'est-à-dire que dans le domaine social, comme dans celui de l'environnement, on a du mal à voir loin. On est sans arrêt pris dans des contraintes. L'État donne aux associations quelques mois de visibilité. Mais qui ferait ça? Est-ce qu'on voit ça dans le domaine de l'entreprise? Personne. On sait très bien qu'aujourd'hui, pour retrouver une marge de manœuvre, il faut regarder plus loin. Si on regarde à quelques années, les associations vont pouvoir, si l'État leur dit, au lieu de vous donner une visibilité sur un an, on vous donne une visibilité sur 5 ou 10 ans. Les associations vont pouvoir investir elles-mêmes dans un patrimoine qui leur permettra d'accueillir les personnes. Donc c'est vraiment, malgré tout ce qu'on entend sur les contraintes budgétaires, etc., encore une fois, il faut voir plus loin, il faut avoir une vision durable des enjeux sociaux.
Et prendre à bras le corps tous ces problèmes et vraiment les traiter de façon concrète, nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Métropole et vous. Merci infiniment d'y avoir participé, Thomas Coudrette.
Merci
et de nous avoir prodigué tous ces éclairages sur la situation du mal-logement dans la métropole toulousaine et même de façon plus générale en France. La vision et les analyses d'un homme de terrain comme vous sont bien sûr toujours précieux pour se faire une idée de la réalité et des difficultés quotidiennes que vivent trop de nos concitoyens. J'espère que cette émission vous en aura donné un panorama le plus juste et complet possible, autant ce qui concerne les manques et les retards constatés que pour les actions, les solutions qui y remédient aujourd'hui ou qui pourraient y remédier demain. Il s'agit d'un enjeu social de première importance, mais aussi d'un véritable enjeu de santé publique, comme nous le disions tout à l'heure. Pour ceux de nos auditeurs qui souhaiteraient en savoir plus et peut-être aussi apporter leur soutien au C10-31, voici le site web du collectif que vous pouvez consulter à l'adresse www.c10-31.org. Et puis je signale aussi l'adresse du site web de la Fondation Abbé Pierre, www.fondation-ab-pierre.fr. Ce numéro de Métropole et vous était animé par Éric Dupri, à la technique Francky Guéret. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure et d'ici là, n'oubliez pas, Métropole et vous bien.
Métropole et vous. Métropole et vous.
Métropole et vous, une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.